scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode solo où je vais discuter de quelques livres de la collection Une chandelle dans les ténèbres. Vous savez que j'aime bien cette petite collection de livres de zététique et j'en ai acheté un certain nombre au cours des années, donc j'avais envie de vous parler de ceux que j'avais achetés, de ce que j'en avais pensé. Ce qui m'a donné l'idée pour cet épisode, c'est le dernier que j'ai lu, qui évidemment, parce que je dis évidemment parce qu'il est sorti très récemment, La vie après la mort de Thomas C. Durand. Donc, bon, Thomas, c'est évidemment celui qui fait La tronche en biais avec Vled. Et donc, il a écrit ce volume dans Une chandelle pour les ténèbres. Donc, c'est une collection dirigée par Henri Brock. Ah voilà, commençons par La vie après la mort, une approche rationnelle. Moi, je l'ai trouvé très chouette. J'étais largement d'accord avec son contenu. Ce qui est bien, c'est qu'il engageait la littérature parapsychologique. Il citait ses sources. Bon, évidemment, il critiquait un peu des choses très francophones, du style Charbonnier, etc. La plupart des parapsychologues dans la littérature ne discutent pas de choses aussi franco-françaises. Mais bon, de toute façon, les arguments qu'il donnait pour ça, c'était tout à fait pertinent. Et puis bon, c'est un livre qui s'adresse au lectorat français, donc c'est un peu difficile de faire l'impasse dessus. Donc moi, j'avais trouvé le contenu vraiment pertinent, bien sourcé. Deux choses m'avaient particulièrement frappé. La première, c'était l'importance des arguments philosophiques. Hein. Je suis 200% d'accord avec ça, dans le sens où je pense que dans le débat entre le survivalisme et l'hypothèse du cerveau mourant, souvent, il y a beaucoup de philo qui doit être impliqué. Il y a de l'interprétation des données qu'on a sur les expériences de mort imminente. Mais c'est toujours... toujours amusant de le constater. Les zététiciens disent toujours, ouais, c'est de la science, mais voilà, c'est quand même beaucoup de philosophie. Et dans le débat sur les expériences de mort imminente, voilà, c'est super important. Et il y a quasiment un chapitre de Thomas qui est pratiquement consacré qu'à des arguments philosophiques contre l'hypothèse survivaliste. C'est un domaine qui est très similaire pour moi au phénomène OVNI ou à d'autres domaines similaires où, en fait, finalement, avec les tenants, on est souvent d'accord avec eux sur la nature des éléments qu'on a sur le phénomène. Simplement, c'est l'interprétation qui est largement différente des données qu'on a. Du coup, c'est des réflexions épistémologiques qui doivent expliquer pourquoi nous, en tant que sceptiques ou zététiciens, on interprète différemment les données. On doit argumenter philosophiquement, épistémologiquement, notre manière d'interpréter les données que l'on a dans la littérature. Et l'autre chose qui m'avait surpris, c'était la préface de Renaud Evrard. Bon, Renaud Evrard, je l'ai souvent invité. Et c'est sympa et marrant de le retrouver à écrire une préface pour Thomas C. Durand, puisque Renaud Evrard, c'est un parapsychologue. Il fait partie de la Parapsychological Association, mais on ne peut pas dire que c'est pas quelqu'un qui était connu avant comme étant un sceptique ou un zététicien. À la grande époque, non, une dizaine d'années, il y avait eu beaucoup de conflits entre lui et l'Observatoire zététique. Il a pas mal critiqué la zététique au nom de la parapsychologie scientifique. Et donc, c'est assez étonnant de le retrouver, de voir que Thomas C. Durand l'a inclus comme préfacier. Bah, ceci dit, je pense que c'est quelqu'un de très compétent pour écrire une préface à ce livre. Hein, j'ai aucun problème avec ça, hein, mais c'est juste assez marrant. Surtout, quand je l'ai vu, je me suis dit, Henri Brock, ça a avalisé ça, il sait qui c'est Renaud Evrard. Parce qu'évidemment, quand il écrivait le célèbre, entre guillemets, blog zététique, qui était un blog consacré à la critique de la zététique, c'était souvent anonyme, donc je sais pas si ça a tilté que c'était lui. Mais bon, voilà, de manière assez étonnante, comme quoi on a parfois des surprises. Bon, évidemment, le format Une chandelle dans les ténèbres est très court, c'est très synthétique, mais celui de Thomas C. Durand, voilà, si vous voulez avoir une bonne idée du débat sur les expériences de mort imminente, surtout dans une perspective francophone, française, donc qui inclut un peu aussi les auteurs qui font le buzz en France, mais qui font pas nécessairement ou pas, voire pas du tout de buzz dans le monde anglo-saxon. C'est une bonne petite plaquette. Dans les tout premiers que j'avais achetés, il y avait. C'était même pas encore une chandelle dans les ténèbres, c'était ce que ça s'appelait la collection zététique à l'époque. Un des premiers que j'ai acheté, c'était Magie et physique amusant de Jean-Eugène Robert Houdin. C'est donc un livre qui a été écrit au 19e siècle, hein. C'était un livre sur la magie. Je l'ai trouvé sympa, mais en même temps, mon impression de fond, d'un point de vue historique, c'est intéressant, hein, mais d'un point de vue sur le fond, je ne suis pas sûr de la pertinence de ce livre-ci dans une collection de zététiques. Le grand sceptique illusionniste, c'était pas Jean-Eugène Robert Houdin, mais Harry Houdini. Alors évidemment, Harry Houdini avait pris son nom, puisque ça, c'était pas son vrai nom, Harry Houdini, avait repris son nom de Robert Houdin, dont il était fan. Et donc on peut voir une sorte de filiation, hein. Harry Houdini était fan de Robert Houdin, et puis James Randi était fan de Harry Houdini. Bon, alors c'est toujours intéressant, hein, de lire des livres consacrés à l'illusionnisme. Si on est zététicien ou sceptique, ça vaut toujours la peine. Dans ce sens-là, oui. D'un autre côté, je pense que bon, le grand sceptique illusionniste, c'est Harry Houdini. Et donc, les livres d'Harry Houdini me semblent beaucoup plus pertinents. Les livres où il critique, où il démystifie les grands médiums du début du XXe siècle. Je ne sais pas s'ils ont jamais été traduits en français. En tout cas, A Magician Amongst the Spirits est vraiment un classique du scepticisme. Encore une fois, je pense qu'on sait pas, je suis pas convaincu qu'on puisse se le procurer en français, mais en anglais, c'est un must et il est toujours édité. En quelle année ça avait été publié, ça, le livre de Robert Houdin? C'était donc Magie et physique amusante, ça s'appelait, hein. Et c'est un livre qui date de 2002, hein. On est vraiment remonté loin dans le temps. Donc, à mon avis, c'est à part en seconde main, ça va être dur de se le procurer. Alors, en 2004, là, j'avais acheté, Les dessous du surnaturel, 10 ans d'enquête zététique, de Paul-Éric Blanc-Rue. C'est marrant parce que j'en ai parlé récemment avec Eric Maillot à un week-end du comité nord-est des groupes ufologiques. Bon, on disait c'est un bon livre sur le paranormal. Honnêtement, moi ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, je m'en souviens pas très bien du contenu, mais forcément si ça date de 2004, ça fait au moins ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que ça m'avait bien plu. Encore une fois, on était à une époque où on n'avait pas beaucoup de littérature zététique à se mettre sous les yeux. Il était quasiment à lui tout seul, le fameux cercle zététique de Paris, hein. Et donc, c'est comme ça qu'il s'était retrouvé, je pense, à écrire ce livre. La discussion que j'avais eue au week-end du CNEGU avec Eric Maillot, c'était sur que penser de Paul-Éric Blanc-Rue. Puisqu'en fait, bon, Paul-Éric Blanc-Rue, par la suite, il a un peu parti en vrille du côté. De la défense des négationnistes de la Shoah. Bon, alors évidemment, on peut dire il défend la liberté d'expression un peu à la manière de Jean Bricmont, mais en même temps, il s'est retrouvé dans des cercles, enfin, à fréquenter des gens un peu fréquentables. Et puis, finalement, il semblerait qu'il soit converti à l'islam. C'est assez bizarre. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé à Paul-Éric Blanc-Rue, c'est assez particulier. D'une certaine façon, il est un peu devenu persona non grata dans la communauté sceptique et zététique, mais assez bizarre. Ouais. Je ne sais pas trop si on peut le recommander, mais en tout cas, à l'époque, avant que Paul-Éric Blanc-Rue ne parte en vrille, quand j'avais lu son livre, il m'avait bien plu. Enfin, c'était quelqu'un qui semblait être un bon sceptique ou un bon zététicien, qui faisait du travail intéressant. C'est pour ça que. Enfin, il faudrait que je le relise à l'heure actuelle pour voir ce que j'en penserais à l'heure actuelle, hein, mais. Mais c'est aussi intéressant justement de voir par exemple les dérives, les problèmes vers les dérives politiques, hein. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Alors ensuite un autre livre. Qui est sorti, mais là je pense que vous le trouvez vraiment en e-pub ou en PDF. Hein. Et celui-là il est sorti en 2007, c'est Les ovnis du CNES, 30 ans d'études officielles 1977-2007. Et donc, ça, c'est le livre de David Grossoni, Eric Maillot et Éric Desguillaumes. Bah, ça, forcément, je ne peux en dire que du bien. C'est vraiment un ouvrage classique pour la critique de. de l'ufologie. Moi, je l'ai abondamment cité dans ma thèse. Je pense que c'est un ouvrage qui a fait date, hein, dans la critique de. Actuellement, c'est le GIPAN, hein, le groupe d'études et informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Maintenant, ça date, mais on avait évidemment le directeur de l'époque, Velasco, qui allait sur tous les plateaux de TV pour dire que les ovnis s'expliquaient par l'hypothèse extraterrestre, qu'ils avaient des cas qui étaient totalement inexplicables, de manière prosaïque. Et alors, ça a été un travail sous la houlette de David Rossoni, hein, qui est un historien. Où il est archiviste diplômé en histoire, voilà. Et avec Éric Maillot et Éric Desguillaumes, ils avaient repris tous les cas remarquables du CNES et avaient montré qu'il y avait des problèmes dans les enquêtes qui avaient été menées et qu'on pouvait leur proposer des explications prosaïques. C'est un must pour les sceptiques intéressés par le paranormal. Ils ne parlent que d'OVNI, hein, mais la méthodologie s'applique aussi aux phénomènes de hantise, etc. Pour moi, c'est un must. Voilà, donc ça, c'est des choses qui datent. Mais alors, après ça, si je l'ai fait dans l'ordre chronologique, hein, en remontant dans le temps, je pense qu'on arrive vers 2008. Et là, on avait Les Fleurs de Bac, Enquête au pays des élixirs de Richard Monvoisin. Ouais, ça vaut la peine de critiquer, hein, les élixirs. Voilà. Ça fait partie des choses à mettre du côté des pseudo-sciences, de la pseudo-médecine ou des médecines prétendument alternatives. C'est bien fait, enfin, de toute façon, Richard, il a un style clair et il explique bien la problématique avec ses fleurs de Bac. Et puis, on arrive à des choses plus récentes, forcément, puisque je remonte en sens inversé. En 2010, j'ai eu les psychanalyses des mythologies du XXe siècle. Alors ça, c'était avec l'ami Nicolas Gohori et Jacques Van Rilard. Bon, Jacques Van Rilard, il vient régulièrement à Bruxelles Scepticopub. C'est un des habitués de Bruxelles Scepticopub. Il n'est pas là à chaque fois, mais il vient régulièrement. Il est quand même assez actif. Je crois que c'est d'ailleurs là qu'il m'a donné. J'ai un volume dédicacé. Bah, c'est du Jacques Van Rilard sur la psychanalyse. Mais c'était sympa. En plus, il y avait du Nicolas Gohori à la fin. Il s'était réparti. En deux parties, je veux dire, si mes souvenirs sont bons, Jacques Van Rilard critique la partie plus les psychanalyses classiques, tandis que Nicolas Gauvry critiquait les choses les plus modernes. Ouais, c'est ça, ils avaient baptisé ça psychanalyse New Look. Donc ça, c'était voilà la partie de Nicolas Gauvry, pardon. Quand je l'avais reçu, honnêtement, bah, Jacques Van Rilard, je connais bien. Pour rappel, je l'ai eu comme prof à la fac. Bon, il donnait le cours de relaxation dans la section thérapie cognitive et comportementale. Donc, il n'avait pas un cours sur la critique des psychanalyses. Je l'ai eu comme prof. Et il a été lecteur de mon mémoire de diplôme d'études approfondies. Donc, autant dire que j'avais lu ses livres classiques plus anciens. Enfin, je connaissais ses écrits. Donc, évidemment. Quand on lit Une chandelle dans les ténèbres, c'est toujours une plaquette un peu qui résume des choses. Donc c'est une version un peu. Si vous voulez pas lire les ouvrages plus volumineux de Jacques Van Rilard sur la critique de la psychanalyse, que vous voulez juste avoir un condensé introductif, c'est assez sympa. Et puis du coup, c'est ce qui m'avait intéressé, c'était plus la partie de Nicolas Gauvry, puisque ça pour moi c'était des choses nouvelles. Là. Moi, je me retrouve parfois à faire la défense de la psychanalyse. Bon, sur Internet, bon, c'est surtout lié, vous savez, au fait que j'ai tendance à défendre la philosophie. Et souvent, je vois chez certains sceptiques une attaque de la psychanalyse sous la forme il n'y a de psychologie qu'expérimentale. Du coup, le problème de la psychanalyse, c'est que ça reposerait uniquement sur des études de cas. Ben, je veux dire, cette attaque-là de la psychanalyse m'embête toujours un peu. Puisque je pense que si on fait ça, évidemment, on attaque beaucoup des sciences humaines, hein, l'anthropologie, la sociologie, etc. Si on éjecte en dehors des sciences humaines tout ce qui est non expérimental, bon, évidemment, ça va garder la psychologie expérimentale. Mais personnellement, pour moi, je pense qu'il faut se méfier des arguments qu'on utilise contre les psychanalystes. La difficulté de la psychanalyse à prouver son efficacité est un bon argument, même si, évidemment. Les données sont parfois moins claires qu'on voudrait le dire. Hein. Il y a eu des études qui ont montré une certaine efficacité de la psychanalyse pour traiter certaines choses. Enfin, il faut suivre la littérature de ce côté-là. Mais bon, ça reste quand même. Ça me semble un bon argument. Et alors, évidemment, les mensonges freudiens sont assez accablants, donc moi je trouve que ça, c'est des arguments très forts contre la psychanalyse. Mais en même temps, ça ne condamne pas non plus l'ensemble du champ. Ça condamne surtout le fondateur. Bon, évidemment, si on condamne le fondateur, ça en dit quand même long sur le reste, mais je pense pas non plus qu'il faille généraliser en disant si Freud a fraudé, donc tout ce que fait la psychanalyse, c'est de la merde. Personnellement, je pense que c'est comme dans bien des domaines scientifiques, il y a des gros problèmes. C'est le fait que les gens travaillent refermés sur eux-mêmes. Mais là encore, hein, c'est pas forcément quelque chose de spécifique à la psychanalyse. Il y a des domaines où les gens, ils fonctionnent un peu en vase clos et c'est le manque d'intégration de la psychanalyse avec les autres de recherches en psychologie qui me paraît le plus grand problème. De vigoureux débats intellectuels entre les psychanalyses et les autres domaines, c'est toujours ça qui moi me semble plus problématique, ou le fait que la psychanalyse ne tient pas suffisamment compte de des autres découvertes scientifiques dans les autres champs de la psychologie. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui me paraît spécifique à la psychanalyse. Il y a des écoles de sociologie qui évoquent la même chose, qui fleurbon le même problème. Dès qu'il y a des groupes humains, c'est très difficile d'éviter ce genre de choses, hein. Du côté de la parapsychologie, on voit bien que dans la Parapsychological Association, il y a beaucoup de tenants, mais il y a peu de sceptiques de la parapsychologie. Donc ça génère toujours un problème du fait que la critique vient toujours de l'extérieur. Les gens de l'intérieur prennent une attitude défensive. Enfin, voilà, dès qu'il y a des communautés de pensée comme ça pose assez rapidement le problème. Ce dont il faut se méfier, évidemment, puisque la communauté sceptique ou zététique est aussi une communauté de pensée. Alors, le suivant que j'ai eu, c'était OVNI, que j'ai acheté, c'était OVNI dans nos cieux, comment les reconnaître, de Jean-Louis Drouot. C'est un petit livre de critique de l'ufologie, de nouveau. Une des caractéristiques, c'est qu'il prend des fiches avec de cas et qu'il explique. À la fois, j'ai trouvé ça sympa et pas sympa. Je pense que c'était une tentative intéressante de vulgariser, mais finalement, c'était pas si. Enfin, cette approche par fiche était un peu trop abstraite. Il a essayé de faire quelque chose en réponse à un manque, qui est l'absence de manuel pour expliquer comment enquêter sur les ovnis pour des débutants. Mais en même temps, déjà, je lui jette pas la pierre parce que je pense que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Mais je suis pas sûr que ça ait tellement fonctionné. C'était un problème dont je discutais encore une fois à la dernière réunion du CNEGU, Comité Nord-Est des groupes ufologiques. Le CNEGU est très vieillissant. Moi j'ai 40 ans, je suis un des membres les plus jeunes. Bon, il y a Thibaut, mais sinon la moyenne d'âge, elle tourne autour des 55-60 ans. Et c'est un des problèmes, puisqu'il n'y a pas vraiment de passation ou de transmission de l'information qui se fait vers de jeunes enquêteurs. Il y a une masse d'expertise au CNEGU, au Comité Nord-Est des groupes ufologiques, sur comment enquêter sur des cas d'OVNI. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est assez complexe. C'est très complexe, je pense. C'est pas si facile à faire. Ça demande des connaissances diverses et variées dans de nombreux domaines scientifiques, sans compter évidemment la connaissance de l'ensemble des cas ufologiques qui sont débattus dans la littérature. Il y a vraiment une expertise chez les membres du CNEGU, hein, Gilles Munch, Éric Maillot, Raoul Robet, Thierry Rocher. Ben, l'astuce, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils prennent leur retraite. Mais il n'y a pas de transmission du bâton. C'est un problème auquel je suis assez sensible. Il n'y a pas de transmission du bâton. Et donc, bon, c'est vrai qu'une question, c'est comment intéresser des jeunes à l'enquête sur le paranormal. Et donc, ça, c'est un des problèmes dont je me plains souvent. C'est que les zététiciens ou les sceptiques ne sont pas forcément très intéressés par réellement travailler de manière rigoureuse sur le paranormal. C'est souvent un peu de la démystification comme ça. On s'intéresse à la pensée critique, on s'intéresse, on regarde des mystifications, des croyances irrationnelles, mais en fait, enquêter, faire un travail de fond sérieux, rigoureux sur le paranormal, il n'y a finalement qu'une minorité de sceptiques ou de zététiciens qui veulent réellement le faire. À mon avis, je me demande si le nombre n'est pas relativement constant. Par exemple, aux États-Unis, on a des gens comme Benjamin Radford, ou alors l'équipe de Monster Talk. En France, il y a l'équipe du CNEGU. Bon, alors évidemment, il y a aussi la question des publications scientifiques, hein. C'est vrai que le CNEGUS c'est pas n'ont pas fait de publications scientifiques, mais enfin, mis à part moi, parce que je suis aussi un membre du CNEGU. Mais donc, c'est vrai qu'il y a le problème de cette transmission à la génération suivante du bâton, des connaissances liées à ce genre de travail, qui est un vrai problème. Donc, il y a deux possibilités, soit essayer de faire rentrer des jeunes membres dans le CNEGU, bon, trouver des jeunes qui seraient vraiment passionnés par l'idée d'enquêter sur de manière scientifique sur le paranormal, enfin le phénomène OVNI en l'occurrence, mais bon, quand on est là, on touche quand même à beaucoup de choses, hein. Par exemple, avec les visiteurs de chambres à coucher, ça évoque les phénomènes d'apparition, les phénomènes de hantise. Enquêter sur au CNEGUS, on couvre quand même beaucoup de bases de phénomènes paranormaux, hein. Donc ça, bon, d'ailleurs c'est un peu un appel, hein, si vous êtes quelqu'un intéressé par l'enquête scientifique sur le paranormal, particulièrement les ovnis, n'hésitez pas à contacter le CNEGU et à demander à être invité à un de leurs week-ends de travail. Et de toute façon, apprendre à enquêter sur le phénomène ovni, bah, c'est en le faisant qu'on l'apprend. Mais c'est en le faisant sous la tutelage de gens de sceptiques plus expérimentés. Le problème, toujours, c'est qu'il y a des groupes, par exemple, de chasseurs de fantômes ou de jeunes qui veulent enquêter sur le paranormal, mais ils se regroupent et puis. Mais ils repartent de zéro parce qu'ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune expertise, etc. Donc, mais même le problème, c'est qu'on pourrait se retrouver devant la même situation. C'est-à-dire que les membres du CNEGU vont prendre leur retraite les uns après les autres, l'expertise va disparaître. Et puis après, peut-être à un certain moment, il y aura une nouvelle vague d'OVNI en France ou en Belgique, par exemple, imaginons la situation. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle génération de sceptiques qui va être intéressée par le phénomène d'OVNI, l'intérêt va revenir. Et l'expertise n'aura plus là. Alors il y a un groupe qui va se constituer, et puis ils vont devoir repartir à zéro, en gros. Ils vont devoir refaire leur expérience. Bon, et ça c'est toujours problématique. Alors que transmettre de l'expérience d'une personne à d'un sceptique plus expérimenté, à un sceptique plus jeune, c'est toujours plus facile que devoir reconstruire une expérience à partir de zéro. Bon, évidemment, il y a le point B qui est que l'autre aspect qui est que on a de l'écrit, hein. C'est vrai que. Le CNEGU a produit beaucoup de documents, enfin moi j'ai produit ma thèse, il y a les livres dont j'ai parlé là, les ovnis du CNES, il y a ovnis dans les cieux, donc on essaye de faire du papier, mais enfin, le papier et l'expérience de terrain, c'est pas la même chose, enfin, vous savez bien, c'est comme, enfin si vous avez fait des études et que vous avez des stages, c'est différent, hein. Quand vous faites un stage, c'est pas exactement la même chose que la connaissance livresque. C'est vrai qu'au CNEGU, j'avais dit au moins ce qu'on devrait faire, ce serait publier un ouvrage qui essayerait d'expliquer comment est-ce qu'on enquête sur le phénomène OVNI, de manière extrêmement le plus pédagogique possible, en gros, pour dire, voilà, si jamais le CNEGU disparaissait complètement, si tout le monde prenait sa retraite, qu'il y ait un livre, une plaquette, où on dise, voilà, c'est comme ça qu'on enquête de manière sceptique sur le phénomène OVNI, de manière la plus simple et pédagogique possible. Ce genre de documents existent, mais évidemment, les documents qui existent ont tous été faits par des associations de tenants, par exemple la SOBEPS, etc. Donc il y a un certain nombre de documents qui existent sur comment enquêter sur le phénomène OVNI, mais qui n'ont pas été écrits par des sceptiques. Donc un tel livre serait vraiment pas mal. Ceci dit, bon, Benjamin Radford a tenté le coup en anglais, hein, donc c'est. C'est Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, ou comment. Je ne suis plus tout à fait sûr du titre, mais il a sorti un livre en anglais sur comment enquêter scientifiquement sur le paranormal. Mais bon, c'est encore une fois qu'une chose qui existe qu'en anglais. Et deuxièmement, ça ne va peut-être pas assez loin, je dirais. Et c'est une bonne introduction. Il couvre pas mal de terrain. Oui, c'est Scientific Paranormal Investigation. How to solve unexplained mysteries. Donc, l'enquête scientifique sur le paranormal, comment expliquer les mystères inexpliqués. Je pense qu'on peut avoir plus de choses encore sur le même sujet. Et par exemple, dans celui de Ben Radford, c'est pas spécifique sur le phénomène OVNI. C'est pour tout le paranormal. Il parle des phénomènes de hantise, etc. Donc, des choses, comment utiliser certains outils spécifiques pour enquêter sur le phénomène OVNI me paraîtrait. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et j'arrive à mon dernier livre, c'était de Tim Trachet, L'étoile de Bethléem, la lumière guide-t-elle toujours nos pas? Il était venu à Sceptico Pub et j'avais diffusé sa conférence, hein. Il avait fait une conférence sur l'étoile de Bethléem. Probablement que la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes des auditeurs plus récents, la conférence que j'ai diffusée de Tim Trachet est probablement loin dans vos mémoires. C'est pas un nom qui doit vous parler, mais en fait, Tim Trachet, c'est C'est probablement le sceptique belge le plus important. Probablement vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est toi Jean-Michel. Mais non, 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 c'est probablement lui, parce que, mais l'astuce, si vous ne le connaissez pas, c'est parce que c'est un néerlandophone. Vous savez, on est un étrange pays de Gaulois, où la moitié de la population parle francophone, et l'autre néerlandophone est Tim Trachev. Il est membre fondateur et actuellement président d'honneur du SCEP, hein, donc l'organisation sceptique belge, et vice-président du Conseil européen des organisations sceptiques, donc l'EXO. Pour ceux qui ne savent pas, oui, il y a un Conseil européen des organisations sceptiques. Il est astronome, si mes souvenirs sont bons, hein, donc il a étudié les mathématiques, l'astronomie et la philosophie des sciences. Moi, je le connais depuis Perpète, hein, c'était un des premiers sceptiques que j'ai rencontrés. En Belgique, forcément, il est pas très loin de chez moi. Il parle bien français, beaucoup mieux que je ne parle néerlandais, puisque je ne parle pas du tout néerlandais. Et il est très actif. Il va au congrès sceptique. Si vous allez au congrès sceptique, vous aurez certainement une bonne chance de le rencontrer. Et donc, il avait publié ce bouquin sur l'étoile de Bethléem. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est une critique des gens qui essayent d'expliquer quelque chose qui ne doit pas être expliqué. C'est-à-dire qui essayent de donner une explication prosaïque de type astronomique à l'étoile de Bethléem. Et donc, par exemple, en disant c'était une météore ou c'était une comète. Et par exemple, Auguste Maassen, là, qui est un des grands tenants de la vague belge d'OVNI, hein, avait fait un article de ce type-là où il essayait d'expliquer l'étoile de Bethléem de manière astronomique. C'est un des grands principes de l'approche zététique du paranormal, hein, s'assurer qu'il y a d'abord un phénomène avant d'essayer de l'expliquer. Toutes ces explications du genre, quand Moïse écarte la mer Rouge, en fait, c'est un phénomène de marée. Non, non, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. Tout ça, c'est des mythes et des légendes. C'est comme commencer à vouloir expliquer, oui, mais quand Hercule a tué les sept têtes de l'hydre, comment est-ce que les têtes de l'hydre pouvaient repousser de manière biologique? C'est complètement absurde, évidemment. Il n'y a juste jamais eu d'hydre. C'est comme expliquer la biologie du monstre du Loch Ness. Hein, mais... Alors évidemment, on peut le faire pour s'amuser. Hein. C'est comme les gens qui s'amusent à expliquer comment les dragons soufflent du feu ou comment lutter de manière efficace contre la propagation d'un virus de zombies, ou les gens qui travaillent sur quelle est la physique à l'œuvre pour expliquer le fait que Cthulhu soit dans la mer. Tout ça, c'est des articles scientifiques qui ont réellement été publiés dans la littérature scientifique. Mais évidemment, ça, c'est juste pour, entre guillemets, rigoler. Enfin, on fait un article sérieux, mais sous un prétexte. Enfin, c'est de la spéculation, mais c'est sympa à lire. Mais évidemment, les gens qui essayent d'expliquer de manière astronomique un événement fictionnel comme l'étoile de Bethléem, c'est parce que c'est des gens qui sont réellement chrétiens. Auguste Maassen, par exemple, il était catholique pendant toute sa vie. Donc, s'il explique ça comme ça lui permet de dire, oui, l'événement s'est vraiment produit. C'était une façon pour Dieu de vraiment annoncer la naissance de Jésus. Donc, c'est une manière aussi pour certains chrétiens de tenter de conserver leur foi, mais c'est vraiment très bancal. Il n'y a pas à expliquer la résurrection, il n'y a pas à expliquer les visions de Jésus. Donc l'explication la plus simple, c'est fictionnel. La personne qui l'a écrit, c'est comme on ne doit pas s'amuser à expliquer comment Gandalf est revenu à la vie après son combat avec le Balrog. Spoiler pour Le Seigneur des Anneaux. Ça revient au même genre de choses. Voilà, c'était un peu les livres que j'ai dans ma bibliothèque qui viennent de Une chandelle dans les ténèbres et donc que je vous recommande. En 1989, la Belgique fut envahie par les extraterrestres. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pu avoir à l'époque en lisant la presse. Des objets volants non identifiés volaient dans nos cieux, certains dignes d'une scène du film Independence Day. De nombreux témoins rapportèrent avoir observé des grands triangles silencieux traversant notre espace aérien. J'étais adolescent à cette époque et ces événements m'ont profondément intrigué. Originaire du Brabant wallon en Belgique, j'étais au cœur des événements. Sauf que tout cela se passait dans les médias. Il n'y avait rien d'étrange à voir lorsque je regardais dans le ciel depuis la fenêtre de ma maison. Comment autant de gens pouvaient-ils rapporter voir des engins spatiaux extraterrestres? Et pourquoi la presse traitait tout cela si sérieusement? Le livre « Le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines » est né de ces interrogations. Si vous en avez assez des documentaires qui vous expliquent que les extraterrestres ont construit les pyramides, ou encore que les observations d'OVNI s'expliquent forcément par des visites extraterrestres de notre planète, ce livre est fait pour vous. Le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, est un livre de Jean-Michel Abrassard. Il est publié aux presses universitaires de Louvain et vous le trouverez sur le site i6doc.com, c'est i, puis le chiffre 6, puis doc.com. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.